Assalam alaikum, shalom, bonjour, Apoya, Mavon Kozo, Indinamikata. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023, il sont 11h et nous sommes en joie de vous saluer, vous qui êtes en place pour écouter le club La Presse sur Canal FM ou sur les antennes de tous les médias partenaires au Togo, en Afrique, dans le monde. Vous vous connaissez, Danejo, Takpame, Sokode, Bassar, Niamtougou, Dapan et dans le monde entier, c'est Michel, Victor Gwekoku, Tomega et moi-même qui vous saluons. Nous associons à cette salutation confraternelle les confrères présents dans ce studio, Abel Ozi de Santé Éducation, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous les branchés de Canal FM.
Béni Koku Sylvestre de La Manchette, bonjour.
Oui, bonjour Sassé, bonjour à toutes et à tous.
Abbas Isaka, et à qui je ramène le bonjour de ses parents de Sokoré. Bonjour Abbas.
Merci, tu as bien vécu là-bas. Tu as vu comment là-bas c'est doux.
Trois mangé... jours, c'est bon.
Tu as mangé avec Moulou.
Wache, demande à Michel, il va te dire.
Donc,
Wache avec Ouagash.
Tu vois bien comment ça fait bien vivre chez
ouais,
nous.
Ouais.
Donc, bonjour à tous, à toutes... ceux-là qui nous écoutent et celles
qui
nous écoutent.
Le dernier invité, ce n'est pas le plus gros, mais c'est le moins mince des journalistes en activité. Vous avez deviné, Bouraïma Tchabore du journal Le Messager, bonjour.
Oui, ça, c'est à quoi, Manan ?
À la FIA.
D'accord. Merci de m'avoir mis en instance pour que tout le monde sache que je suis là.
Oui.
Sinon,
c'est dans le bassin.
Non, il est là, il n'y a pas de souci. Pour vous dire bonjour, bonjour aux auditeurs également. Et puis, je suis là.
Bouraïma, tu sais, une dame qui aime t'appeler Fofovi.
Oui.
Eh bien, elle te réclame.
Je suis là.
Non, elle te réclame.
Je suis là, il n'y a pas de souci.
Elle a ouvert un nouveau commerce maintenant. Elle sera manger également les plats du pays. Si tu veux, je me sers de guide pour t'y amener.
À la félicitation à elle. Félicitations. Je pense que après l'émission, vous allez vous faire le devoir de m'amener là-bas pour que je puisse.
Elle chante extrêmement.
Sur ce point, c'est.
Mais apparemment, comme la musique n'arrive plus tellement à nourrir sa femme, elle se convertit.
Non, je crois qu'elle a raison de diversifier ses sources de revenus parce que vous savez, au Togo, ce n'est pas encore ça en matière d'artiste. Et je pense que ce qu'elle fait déjà, c'est bon. Il ne faut pas rester campé sur cette histoire de chanteuse ou bien d'artiste et puis après tout vieillir, ne pas assumer ou bien assurer sa retraite.
Merci, c'est une tradition. Nous démarrons l'émission par une pensée du jour et aujourd'hui c'est William Sinclair qui nous enseigne que dans un conflit, le dialogue offre plus de solutions que le silence et l'enfermement sur soi. Encore une fois, dans un conflit, le dialogue offre plus de solutions que le silence et l'enfermement sur soi. Nous nous permettons de recommander cette citation à l'État d'Israël et aux Palestiniens et à tous ceux qui disent aimer l'un ou l'autre. Et encore une fois, dans un conflit, il vaut mieux dialoguer parce que la solution passe plutôt par le dialogue plutôt que par... le silence et l'enfermement sur soi. Mercredi, vous en doutez, nous allons parler santé, éducation, n'est-ce pas, Abel Ozi ?
Oui, ça, on est mercredi, on parlera santé.
Et puis, nous allons continuer avec une petite chronique sur l'eau dans tous ces états. Et puis, nous avons une saison bien arrosée. En principe, c'est la saison agricole qui devrait sourire. Quels sont les efforts que l'État, le gouvernement fait pour... accompagner le monde agricole. Et puis nous allons terminer par la gouvernance économique et de démocratique dans notre pays. Commençons par la santé, Abel Ozi. J'ouvre le journal à page 3 et je tombe sur cette recette qui doit faire beaucoup de plaisir à nos auditeurs du nord du pays, eux qui sont déjà amateurs des feuilles de baobab. Abel Ozi.
Oui, feuilles de baobab avec sa sauce qu'on appelle souvent Cordero. Mm-hmm. Une sauce que beaucoup aiment, comme vous le dites, nos compatriotes du Nord, mais également au Sud également.
De plus en plus, oui.
Oui, qui préfèrent cette sauce. Et nous avons fait un petit focus sur une vertu intéressante. Les feuilles de baobab qui peuvent aider à traiter les crises d'asthme, les difficultés respiratoires.
Oui.
Et pourquoi ? Parce que d'après plusieurs études qui ont été faites, ces études ont montré que les feuilles de baobab sont très riches en antioxydants, en nutriments, en minéraux, en vitamine A et surtout en vitamine C. Donc, tous ces composants, mais tous ces éléments font de ces feuilles en fait une vertu importante pour la santé respiratoire. Donc quand on consomme la sauce de Cordoro, ça peut contribuer à maintenir le système immunitaire et à maintenir la santé respiratoire.
Merci. Un peu partout à Lomé ici, il y a des restaurants, des gargotes à spécialité Moba, Cabier, Bassar, Kotokoli et autres. Hein, il y a ce restaurant qui est dans les jardins de Radio Lomé que les connaisseurs appellent la pharmacopée. Hein. On prépare des plats authentiquement cabier, hein, sans aucun ajout. Allez-y faire un tour, demandez la somme à la sauce Cordoro. Vous pouvez demander également la sauce Azewa, Nyato,
voilà,
ou bien Nyato les feuilles de Kapok. Hein, feuilles de Kapok qui est pour les Moba, gourmandiers et autres. Vous m'en direz. Mais revenons au journal Santé Éducation, la page 5. Vous nous parlez de nos reins. Les reins qui sont si vitaux parce que c'est eux qui filtrent tous nos aliments. Attention à des reins malades. Vous nous en donnez 7 signes d'alerte, Abel Ozi.
Oui, attention à des reins malades. Parce qu'aujourd'hui, on craint une maladie très, très, très cruciale qui est l'insuffisance rénale. Parce que un Togolais qui souffre d'insuffisance rénale, on se dit c'est fini pour lui, il y a pas de solution.
Donc, pour nuancer, c'est pratiquement fini pour lui.
Voilà. Donc, nous attirons encore l'attention des populations sur cette maladie, en fait, sur les reins. Ce sont des organes très vitaux. Les reins, on connaît les principales fonctions des reins, organes épurateurs, évacuer les toxines, filtrer le sang. Et quand les reins sont malades, attention, il faut aller consulter. Et dans cette parution, on a fait cas de 7 signes. 7 signes.
Ça dit 6 plus 1.
Voilà. Donc, ce sont des signes d'alerte. Et quand on identifie, mais on découvre ces signes, attention, il faut aller consulter. Et vous allez voir sur à la une du journal, on a mis une image des pieds enflés. Voilà. Donc, l'un des signes importants, c'est la rétention d'eau. Dans les organes comme les chevilles et nos chevilles, les mains ou bien les pieds. Donc, quelqu'un qui constate que son pied s'enfle, ou bien commence par s'enfler.
Alors qu'il n'est pas gros comme vous, Raïma.
Ok, on peut le dire ainsi. Donc, attention, cela peut être dû à un problème rénal. Pourquoi je m'explique. Parce que, en effet, lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau des reins, les reins laissent passer des protéines du sang dans les urines. Donc, cela a tendance à passer dans les tissus environnants, provoquant des rétentions d'eau. En fait, une accumulation de liquide dans cette partie-là. Donc, c'est ça qui provoque des pieds enflés, des mains enflées.
Rétention d'eau, mais voilà. Également des fatigues excessives,
voilà.
Des douleurs de dos. Quand nous dégageons bizarrement d'une mauvaise haleine, ou bien quand nous notons des changements dans notre urine, quand nous souffrons d'anémie ou bien de démangeaison sur la peau, attention, ça peut être des alertes. Allez consulter.
Allez consulter.
Allez consulter parce que au Togo, nous n'avons que 2 centres publics de dialyse. Il y a le CHU Le Métocoin
et
le CHU Kara.
Voilà.
Hein? Alors imaginez un peu. Hein? Il n'y avait que le Mé. Maintenant, Kara vient de s'y ajouter. Mais encore que si vous faites la dialyse, c'est pas que vous allez en guérir. Encore une fois, la solution passe plutôt par la prévention.
Oui.
Alors, des reins, passons aux testicules. Les testicules, faut-il le rappeler, ce sont des organes de notre appareil reproducteur. C'est dans les testicules que se forment les spermatozoïdes qui nous permettent de devenir papa. C'est également les testicules qui fabriquent des hormones comme la testostérone.
Voilà.
Mais il peut arriver que les testicules se gonflent subitement. Ça peut être maladie, n'est-ce pas, Abel?
C'est encore l'alerte qu'on donne pour nous les hommes. les testicules, vous savez, c'est encore un organe qu'on néglige. J'ai un testicule gonflé, est-ce que je dois consulter? Oui. Oui, je dois consulter. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, il faut comprendre qu'il n'y a pas une petite anomalie du testicule. Quand on sent qu'il y a en fait une boule, une petite boule, une grosse boule, quand on sent que le testicule, bien, on sent au toucher que c'est dur. Donc, quelques signes là aussi qui nous permettent de comprendre que notre testicule a un problème. Donc, dans tous les cas, quand on sent des douleurs au niveau de cet organe, il faut aller rapidement à l'hôpital. Il ne faut pas laisser en fait, le mal perdurer. Attention, parce qu'aujourd'hui, il y a également le cancer du testicule qui est là, mais qui n'est pas encore très fréquent.
La preuve, voilà. La grande vedette du football ivoirien, Sébastien Haller, il en a souffert, voilà. Il en est guéri. Mais attention. Combien de ceux qui portent cette maladie-là en meurent malheureusement. Voilà. Et pour terminer avec la bonne humeur, imaginons une scène de ménage où le monsieur est tout géant, il peut même mesurer 2 mètres, il est tout fort, tout puissant, il croit dominer sa femme. Et si jamais il se laisse que la femme lui attrape les testicules, vous devinez un peu.
imaginez la suite.
Imaginez la suite. Voilà. Avec le changement de rapport de force.
Voilà, imaginez la suite.
Merci. Nous allons terminer avec cet article à la page 6 quand vous parlez de congé de détente. Voilà. Santé Éducation nous parle des avantages pour les élèves dans ces congés de détente. C'est vrai que c'est une nouveauté chez nous ici, avec l'arrêté de Cocoroco qui décrète. Deux congés de détente au cours de l'année scolaire. En quoi est-ce que ces congés de détente peuvent être un avantage pour les apprenants, Abel?
Oui, d'abord, ça commence déjà à partir du 27 octobre. Il faut le souligner. Mm-hmm. Et vous savez, c'est une décision ministérielle qui a peut-être eu des échos chez les parents. Certains parents ont eu un sentiment un peu mitigé. Qu'est-ce que cela apporte aux enfants? Qu'est-ce que cela leur apporte? Et la décision est déjà prise par le ministère et on s'est approché d'un expert pour un peu fouiller qu'est-ce que ça apporte réellement pour les élèves. Mm-hmm. Et vous allez voir dans cet article, l'expert a énuméré, bien a donné les raisons importantes et possibles pour les élèves, les avantages de ce congé pour les élèves, et vraiment nos élèves peuvent en profiter et surtout pour se détendre et apprendre leurs leçons. Donc, les parents doivent accompagner cette décision, doivent accompagner leurs enfants à pouvoir profiter de ce congé de détente.
Merci. Votre expert est un coach spécialiste en réussite scolaire et en orientation professionnelle. Il relève que ces congés de détente sont l'occasion pour les apprenants de faire un break, de se détendre, de remettre en ordre leurs idées. Et cela va également leur permettre au cerveau de se régénérer afin d'aborder la suite des cours avec un nouvel élan, avec une nouvelle ardeur, une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. C'est la parole de l'expert. Sauf que Abel, c'est une nouveauté qui vient d'arriver chez nous. Est-ce que les écoles et surtout les parents ne vont pas plutôt continuer à occuper les enfants par des cours de soutien, des cours de répétition ici et là?
Non, il faut que la sensibilisation au niveau des écoles puisse encore être renforcée pour que nos parents comprennent en fait la nécessité de ces congés de détente pour nos enfants.
Merci. 4 articles de Santé Éducation que nous avons choisis, mais il y a le reste des articles de ce journal. On l'acquiert. Et puis on le lit, on s'approprie le contenu, mais attention, les recettes de Santé Éducation ne sont pas des ordonnances, Abel Ozi.
Oui, il faut toujours consulter quand on a un mal, et on sait bien que la prévention est la meilleure stratégie.
Merci. 11h passées de 15 minutes, dans 45 minutes, vous allez pouvoir entrer en ligne en composant le 22, le 21, le 33, 74. Pour le 91 36 63 75 pour co-animer avec nous par vos questions, par vos commentaires. Nous continuons avec ce sujet que nous sous-titrons « L'eau dans tous ses états, ici et ailleurs ». Les images et vidéos d'un déluge circulent en boucle sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis 2-3 jours. Il s'agit de ces images qui montrent des champs de culture et des habitations inondées par les eaux, les populations délogées qui cherchent à s'abriter de toute urgence, abandonnant ainsi leurs habitations, leurs logis et leurs activités. On parle d'environ 27 000 personnes affectées. La scène se passe dans le sud-est du Ghana, dans la localité de Sogakompé et en amont, et c'est sur le cours inférieur du fleuve Volta. Et selon les explications des autorités de ce pays, le Ghana, le phénomène est causé par l'ouverture des vannes des barrages d'Akosombo et de Kpong en amont. C'est suite aux abondantes pluies qui arrosent la région depuis plusieurs jours. Il s'agissait pour le Ghana d'ouvrir les vannes pour protéger les barrages, et la conséquence en aval, c'est que les populations se retrouvent inondées. Mais jusqu'à ce matin, officiellement, il n'y aurait pas de pertes en vies humaines. Le Togo, notre pays, connaît le même phénomène pluviométrique avec cette saison bien arrosée, mais heureusement avec des conséquences moindres que ce à quoi nous assistons au Ghana. Mais l'alerte est toujours là. La preuve, aujourd'hui, le confrère La Lanterne nous rappelle que l'Agence nationale de protection civile, l'ANPC, appelle la population togolaise à plus de vigilance par cette saison de pluie, notamment ceux qui se retrouvent dans le long du cours inférieur du fleuve Mono à partir de Nangweto. Il se pourrait également qu'on ouvre les vannes de Nangweto. Il se pourrait également que nous assistions à la même scène que le Ghana vit actuellement. Mais pendant ce temps, le débat, pour ne pas dire la polémique, s'anime plutôt autour de la disponibilité de l'eau dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos messagers. La preuve, le confrère, le messager qui écrit cet article très intéressant à la page 2, « Affaire de forage, le paradoxe togolais ». Il est question donc de cette sortie du ministre d'État en charge de l'eau qui a averti il y a quelques jours, qui a plutôt rappelé que l'eau est régie par le code et qu'on devrait en principe obtenir une autorisation avant de creuser son forage. Sortie qui continue à défrayer la chronique. Il y a aussi le journal Le Triangle des Enjeux qui en parle. Sécurité hydrique et contamination des eaux de forage, les préoccupations du ministre Yak Damehan, le ministre en charge de l'eau de l'hydraulique villageoise, qui a évoqué la possibilité de vérifier ou bien de faire vérifier les permis de construire les forages. Une déclaration qui continue à susciter une polémique persistante, comme le rappelle le Triangle des Enjeux. La Dépêche y ajoute sa plume et écrit que les forages au Togo sont nés de l'incapacité notoire de la TDE à distribuer l'eau. Et hier, dans ses activités, nous avons vu le ministre Yark qui a visité le chantier de Château d'eau à Flao-Sagbado, un château, quand il sera fini, qui va desservir une bonne partie des populations de ces quartiers. Et pour finir donc cette information que nous donne le messager à la page 5, l'information dit ceci, distribution d'eau potable, la TDE qui propose des compteurs prépayés à sa clientèle. Il s'agit donc pour la régie des eaux du Togo de mettre à la disposition de sa clientèle, c'est-à-dire de nous, des compteurs prépayés sous forme de cash power, comme le fait déjà la CEET. Et ces compteurs prépayés fourniront le double avantage, à savoir les abonnés peuvent recharger à loisir leur compteur dans les agences de la TDE ou via les services de prépaiement mobile. Ça c'est d'un. De deux également, c'est que ça permet à la TDE de ne plus accumuler de factures impayées. C'est-à-dire vous allez consommer ce que vous aurez prépayé. Voilà, le sujet il est abondant. Kwaku Sylvestre, il y a les inondations au Ghana, avec les risques chez nous aussi, avec la pluviométrie, il y a toute la polémique qui continue à s'enflammer autour de la déclaration du ministre Yard, qui ne visait qu'à nous protéger sur la qualité des eaux de nos forages, et puis la TDE qui veut entrer dans la danse des compteurs prépayés. Coucou Sylvestre.
Oui, je crois que ça ferait quand même un beau ramassis. Hein, et en ce qui concerne donc le, ce qui se passe au Ghana, c'est véritablement ça sort de l'entendement, parce que ça fait des années, on n'a pas assisté quand même à un tel à ce déluge-là, parce que il a même fallu que qu'on circule avec des pirogues aujourd'hui motorisées sur à Port-à-Régine, des maisons totalement immergées. Hein, il n'y a qu'une petite, peut-être au niveau de la toiture qui se fait voir sur certaines scènes, c'est véritablement horrible. Mais bon, c'est cela aussi le changement, hein, le changement climatique que nous redoutons, parce qu'il est, il est tellement dit que la Terre se réchauffe beaucoup plus. Donc ça peut véritablement également amener ce genre de situation. Maintenant, en ce qui concerne la pluviométrie, oui, nous, depuis au Togo, je crois, et c'est l'occasion donc de féliciter cette agence-là qui a si bien fait donc en allaitant donc les Togolais, qu'on aura une pluviométrie normale cette année. Et donc, je crois
normal, que... Normale, mais à tendance excédentaire.
Voilà, et c'est ce que nous voyons. Et donc, la NPC aussi a pris un certain nombre de dispositions pour alerter. Ils ont fait des missions, des formations et tout. Bon, jusqu'à preuve de contraire, on ne déplore pas encore donc de pertes en vie humaine en ce qui concerne donc le Togo. Généralement, c'est pas le cas. Maintenant, nous avons tendance aussi à trop maîtriser la situation. Pour l'instant, nous contrôlons, nous maîtrisons la situation. Maintenant, en ce qui concerne donc la situation de forage, c'est vrai qu'il y a eu un laisser-aller. Il y a eu un laisser-aller, et cela aussi est dû au fait que au niveau donc de l'État, il y a eu une certaine démission. Appelons les choses par leur nom, parce que vous ne pouvez, au niveau de la TDE n'arrive même pas à couvrir ne serait-ce que la capitale, hein, le trois quarts de la capitale. C'est impossible. Ségbé n'est pas le Ségbé, disons, c'est une banlieue de Lomé. Mais vous allez à Ségbé aujourd'hui, hein, il y a des quartiers où vous n'avez même pas donc des installations de la TDE. Voyez-vous? Et n'en parlons même pas donc
C'est ce qui est en train d'être corrigé, notamment ce château, hein, en chantier à Sagbado. Il y a un autre chantier à Ségbé même. Et dans d'autres banlieues également, il y a des châteaux. Certains viennent d'être inaugurés, d'autres sont en chantier. Quand ils seront finis, peut-être que la solution sera...
Heureusement que tu as dit est en train d'être corrigé. C'est pourquoi je parlais en amont de démission de l'État. On aurait anticipé cela, qu'on n'en serait pas donc à ces forages dans presque toutes les maisons aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez dans ces quartiers-là, Akbala, ici, au niveau donc de Zanguera et tout ça, sur c'est pas une exagération, mais sur au moins 10 maisons, vous avez au moins 8 qui ont des forages, parce que les gens ne peuvent pas attendre l'État. Voyez-vous, ils ont l'eau, c'est la vie. On le dit, l'eau, c'est la vie. Donc les gens ne peuvent pas attendre indéfiniment l'État. Donc ils ont pris des dispositions pour amasser toute une fortune, parce que pour avoir un forage, les gens vont jusqu'à 700, 800 000, voire 1 million.
Et là encore, c'est les forages manuels.
Manuels.
Entre 700 et 900 000. Quand ça doit être avec la machine,
c'est vous êtes 2 millions, 3 millions. Voyez-vous donc que les gens ont amassé des fortunes pour avoir des forages. Et l'État aussi, sachant que pour l'instant, les installations de la TDE ne permettent pas d'avoir l'eau dans ces quartiers-là, ont laissé la situation... si vous voulez peut-être quelque peu pourrir, et maintenant on veut corriger. Maintenant, si on veut corriger, nous avons quand même un refrain au Togo, la loi n'est pas rétroactive, n'est-ce pas? Généralement, c'est ce qu'on dit, non? Donc il faudrait que ceux qui ont déjà installé les forages, qu'on les laisse tranquilles. Maintenant qu'ils sont en train de corriger, il faudrait qu'il amène seulement la TDE dans les quartiers. Et vous verrez que les gens vont prendre et oublier les forages.
Le débat est lancé. Voilà, c'est clair. Il s'anime avec des propositions pertinentes. Et l'État et nous-mêmes, nous allons trouver la solution. Parce qu'il s'agit d'abord d'avoir de l'eau, mais surtout de l'eau de qualité. Parce qu'Abbas Issaka, dans nombre de quartiers, nos puits qui sont à fleur du sol, même nos forages, ne nous donnent pas toujours... des eaux de qualité, ces eaux qui pourraient nous contaminer, nous donner d'autres maladies. Mais le champ est ouvert depuis les inondations à la pénurie d'eau.
avec la TDE qui veut maintenant nous faire installer des compteurs prépayés. Abbas.
Oui, je pense qu'il faudrait qu'on corrige tout ça, puisque il y a une semaine de cela, il y a eu le lancement d'un projet par Madame le Premier ministre. C'est lors de ce lancement que le ministre de l'eau, ministre d'État et ministre de l'eau, a parlé de la police qui sera mise en place par la police de l'eau. Donc si cette situation, on arrive à bien appliquer, respecter ce projet, je pense que au moins ça va réduire cette histoire de forage, d'implantation de forage un peu partout, puisque là il faut veiller à ce que ce projet soit bien appliqué. Et Madame le Premier ministre avait dit qu'on ne tolérera plus ceux-là qui vont mal exécuter ce projet. Donc il faudrait veiller à ce que ce projet soit exécuté. Maintenant, on sait que Lomé est assis sur une nappe d'eau et s'alimente, s'approvisionne à partir de cette nappe d'eau. Selon certains sources, c'est qu'on compte plus de 13 000 forages à Lomé ici. Et ces forages, est-ce que ces forages fournissent de l'eau de qualité?
On peut en douter.
On peut en douter. Parce que vous allez voir même les forages qui servent de commerce, à faire le commerce. Les forages qui servent à faire même les piwata. C'est des forages qui dépassent même la profondeur qu'il faut appliquer.
En principe, les forages doivent aller jusqu'à 400 voire 500 mètres.
Voilà, donc il faudrait que ça soit respecté. Si ce n'est pas respecté...
Alors que nos forages ici, c'est 35 mètres, 70 mètres maximum.
Et c'est des eaux qui ne sont pas traitées. C'est pour cela, je crois, le ministre d'État, Muyak, a dit qu'on va envoyer des experts. Si vous avez l'autorisation, on envoie des experts d'abord avant que vous n'avez... Des experts qui vont puiser l'échantillon dans lequel vous pouvez
analyser.
On
a, que c'est bon.
Ouais, on analyse l'échantillon et on vous autorise à faire votre forage.
Oui.
Parce que c'est pour la qualité de l'eau et pour notre santé. Mais s'il n'y a pas ça, c'est qu'on va boire des eaux qui vont nous tuer en plus.
Oui.
On voit même des forages qui sont à côté des puisards et des forages qui sont même au niveau des cimetières. Et tout ça là, rien n'est analysé. Il n'y a pas de qualité. Ça veut dire que ce que nous consommons, et d'habitude, comme on le dit souvent ici, c'est que notre santé dépend de ce que nous consommons.
Mm-hmm.
Si on consomme mal de l'eau qui n'est pas traitée, on risque même de se tuer, de s'entretuer, et on aura des problèmes.
Oui.
La loi donc pas, la loi n'aime pas, c'est même pas aujourd'hui que la loi existe. C'est depuis 2010 que la loi a été votée.
13 ans déjà.
13 ans déjà.
Alors, Sylvestre qui parlait tantôt de rétroactivité,
non, la loi
doit se situer dans le temps.
La loi existait. C'est pas que c'est une nouvelle loi qu'on a mise en place. Donc, la loi existait. On dit souvent qu'on est censé ignorer la loi.
Oui.
Donc, si vous cherchez à voir le code de l'eau même, vous allez comprendre que la loi là est là. Et c'est cette loi qui n'est jamais appliquée par les autres ministres, que le ministre Yac est venu pour dire, bon, il y a la loi comme ça. Maintenant, il faut donner de la qualité de l'eau aux populations. Il ne faudrait pas qu'on boive n'importe quoi et n'importe comment. Il faudrait aussi avoir une autorisation, avoir des échantillons pour les étudier.
Oui.
Comme ça se fait au niveau de la TDE où des eaux sont prélevées pour voir la qualité de ces eaux-là. Mais s'il n'y a pas ça, c'est qu'on a des problèmes. Donc, il faudrait aujourd'hui commencer par appliquer certaines lois.
Merci.
En
somme,
c'est la sensibilisation.
Yark ne fait que rappeler la loi. Et de deux, il se dit soucieux de notre santé, de la qualité de l'eau que nous buvons. Mais comme le lui rappelle la dépêche, si nous creusons nous-mêmes nos forages, c'est que l'État, via la TDE, a démissionné.
C'est
tout ce que tu ramasses par ton titre, le paradoxe togolais.
Justement, c'est le paradoxe togolais, parce que on a comme l'impression qu'on veut une chose et son contraire. Ça, c'est le paradoxe.
Nous sommes champions là-dedans.
D'accord, Togo. Oui, il y a même des hommes politiques qui ont eu à le dire, d'ailleurs, que ça existe. Donc, je pense que les confrères ont eu à élucider, à dire ce qui se passe, et il faudrait comprendre la population. Ceux qui crient, ceux qui sont en train de critiquer le ministre Yac, que je dirais visiblement, n'ont pas peut-être compris le sens de sa déclaration. Il faut les comprendre, parce que par ces temps qui courent, où il faut débourser 800 000 pour faire un forage avec des moyens de bord, il faut comprendre que ça fait mal. Si on n'a pas compris peut-être le sens de ce que le ministre d'État voudrait dire. Qu'à cela ne tienne, je pense que les confrères ont déjà dit quelque chose de très important. Au finish, les gens finiront par donner raison au ministre d'État parce que, au-delà de tout, c'est notre santé qui est en jeu. C'est notre vie qui est en jeu. Et dire qu'il faudrait avoir, comment l'appelle-t-on, les autorisations, voudrait dire qu'il faut se faire suivre par des techniques, par des techniciens qui vont vous dire, ah, ici, c'est, vous êtes autorisé, ici c'est bon pour un forage, et là ce n'est pas bon. Vous imaginez, les gens vont même jusqu'à faire des forages dans des cimetières. Et l'eau que nous buvons, surtout ceux qui vendent, qui nous livrent les piawata, communément les eaux que nous appelons piawata, c'est la catastrophe. Donc au-delà de tout, je pense que le ministre Yark veut effectivement faire en sorte que nous buvons de l'eau de qualité. D'ailleurs, hier, lorsqu'il remettait le bloc au niveau de Segbe, il a eu à repréciser son idée. Pour dire qu'en fait, c'est pour vous faire suivre, pour que les populations togolaises se fassent suivre. Et encore, le rappeler, la loi dont il a répété, ou bien dont il a rappelé, existait depuis 10 ans. C'est là où je dis le paradoxe, parce que il y a eu des députés qui sont sortis par rapport à cette situation. Les mêmes députés qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont censés en réalité savoir que c'est leurs collègues qui avaient voté cette loi. En réalité, ils devraient accompagner le ministre dans ce sens pour expliquer à la population le bien fondé de sa déclaration. Effectivement, le confrère a dit quelque chose, que l'État a... que l'État a démissionné. Moi, je ne dis pas que l'État a démissionné. L'État a failli. C'est une défaillance. Et ça se corrige. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être fait à travers ces projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Je dis quoi ? Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Moi, je pense qu'il faudrait quand même que les populations comprennent qu'au-delà de tout, un gouvernement, lorsqu'il est mis en place, ne doit pas toujours chercher à faire du mal à sa population. Les gens ont compris peut-être dans la déclaration du ministre qu'effectivement, c'est-à-dire que le ministre veut peut-être faire les recettes à travers la collecte de l'argent dans ce sens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens. Et je dis, il faut que l'État fasse en sorte que la TDE dont il est question puisse avoir les moyens nécessaires pour pouvoir desservir. Je pense que c'est très important.
C'est tout.
C'est très important.
La solution passe par...
En réalité, si tu le permets.
De l'eau. Et également, peut-être que, Sylvestre, les gens n'ont vu dans Yark que le général,
justement, que le soja,
alors qu'on aurait dû voir le ministre soucieux de notre santé, parce que quand nous parlons de santé, c'est pas seulement les eaux de mauvaise qualité que certains boivent par leur forage, mais il est démontré, hein, selon les experts, que cette floraison anarchique, hein, de forage, hein, pourrait contaminer la nappe phréatique et pourrait même occasionner un assèchement. C'est des considérations techniques. Peut-être que si Yark et tout le gouvernement s'y prenaient avec une meilleure pédagogie pour expliquer, réexpliquer encore le temps qu'il faut, les populations comprendraient et peut-être qu'on les accompagnerait.
Vous avez vu qu'il a fait une première sortie. Maintenant, il a fait une seconde pour tenter donc d'expliquer véritablement ce qu'il voulait réellement dire.
Mais il va devoir continuer à sortir
pour expliquer. Justement, parce que, vous savez, en matière de communication, le choix des termes, hein, en disent long sur ce qu'on veut faire. Si vous sortez un certain nombre donc de termes tout de suite qu'il faut braquer les gens, donc ça veut dire que votre communication risque de ne plus passer. Donc aujourd'hui, le ministre, je ne veux pas dire un retour pédalage, mais il est revenu pour expliquer de fond en comble ce qu'il voulait dire. Mais vous avez vu, ce matin-là, c'est-à-dire, nous avons tellement fait de littérature qu'il suffisait juste d'un déclic pour éviter tout ça. C'est-à-dire que si la T2 est à mes portes, vous croyez que j'irai amasser des fortunes pour faire un forage? Non. Voyez-vous, donc, il faudrait juste que le gouvernement mette des dispositions à la T2 pour qu'on ait des installations dans les quartiers, dans les régions, et vous verrez que le problème ne se poserait même pas. C'est-à-dire que le problème de forage ne se poserait pas parce que quelqu'un ne peut pas, c'est-à-dire, avoir la TDE, peut-être 50 ou 40 000, c'est suffisant, peut-être pour avoir un branchement, et aller amasser 800 000 pour faire un forage. Vous voyez que le choix, en réalité, est clair. Mais la T2 aussi, déjà à partir de 7 heures, vous tenez le robinet, il n'y a plus rien. Voyez-vous, il y a également ce problème-là. C'est-à-dire que déjà à 7 heures, vous tenez le robinet, rien.
Et en pleine ville.
En pleine ville. ce que j'ai dit dans les paroles donc de Dijolé, tout ça, allez, allez faire l'expérience. Non, 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 oui, oui, j'ai raison. Je sais que j'ai raison. Donc il faudrait véritablement que. Attends, je finis. Comme j'ai raison, je finis et puis tu prendras la parole. Donc il faudrait véritablement que la TDO aussi puisse assurer les Togolais que vous aurez de l'eau en abondance et de manière continue pour qu'on ne puisse pas aller faire des forages.
Non, vous savez, vous savez, en fait, le problème. Je connais quelqu'un.
Voilà.
Et il a approché la TDE pour avoir son branchement.
Oui.
On lui a tendu une facture de 2 600 000. Mmh. Alors cette personne est allée chercher 700 000
pour faire forage.
Pour creuser son forage.
C'est fini. Okay, ça, ça, le choix est clair.
J'espère que c'est vrai, mais j'en doute un peu. Parce que je dis quoi, la TDE par rapport à cette situation, je pense qu'il faudrait comprendre. Il y a deux structures qui sont là. Peut-être les Togolais et peut-être nous-mêmes, hommes de médias, on n'a pas peut-être cherché à comprendre ce qu'il y a. Il y a une structure qui s'appelle la SPO. Oui. Je ne sais pas la
Société du patrimoine de l'eau.
Au fait, c'est...
Qui est dépositaire.
C'est cette structure, en réalité, qui met les infrastructures en place pour que la TDE puisse exploiter. Oui. En principe, nos plaintes actuellement, la TDE aussi est dans cette droite ligne, dans la logique de plainte. Elle se plaint parce qu'on n'a pas mis les dispositions.
Mais si on on le dit.
Oui, on n'a pas mis les ressources nécessaires à sa disposition.
Il faut démissionner.
Pour pouvoir exploiter. Donc, tout revient aujourd'hui au gouvernement. Ça, il faut le dire. Le gouvernement a la lourde responsabilité aujourd'hui de mettre à la disposition de ces structures les moyens nécessaires pour que les populations ne puissent plus continuer par souffrir. C'est très important. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement a failli et il faudrait corriger.
Et le gouvernement, c'est la personne du Damehamia, ministre d'État en charge de l'eau.
Et c'est ce qu'il est en train de faire.
Il a jeté un gros pavé dans la main. Je présume qu'il suit toutes les réactions qui viennent d'ici et là. Ah ouais. Il saura en faire une communication au gouvernement avec des propositions pertinentes pour doter aussi bien la Société du patrimoine de l'eau, la SPE, que la TDE de moyens nécessaires et suffisants. Et comme ça, les gens ne vont plus.
Et même par rapport à sa déclaration, j'ai dit quelque chose. Il faudrait une pédagogie. Les confrères l'ont dit. Il faudrait sensibiliser les gens. Ce n'est pas il a déclaré, c'est vrai, mais il faut sensibiliser les gens pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Et c'est là, il faut un moratoire par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à l'application de ce code. Et ça se négocie, les acteurs sont là. Moi, je pense que le ministre, quand même, c'est un homme et il réfléchit, il écoute ce que les gens disent. Et bon, je pense qu'il va suivre cette logique pour donner un moratoire, sensibiliser les gens pendant un temps afin de pouvoir mettre en jeu.
Je peux vous assurer que Yark Damehram sait se rendre disponible. Ah, ouais. Déjà, lorsqu'il était directeur de la police, de la gendarmerie, nous l'avions invité aussi au club La Presse. Il est venu plusieurs fois. Ministre de la Sécurité, de la Protection Civile, nous l'avons invité. Il a répondu à nos invitations. Nous présumons, nous présageons que quand nous allons l'approcher, il se rendra disponible aussi bien pour le club de La Presse que pour d'autres médias pour expliquer abondamment à tous nos
collègues. Il y a un auditeur de Dijolé qui m'a corrigé.
Oui.
Il dit que en fait c'est à 6 heures, ça se coupe. La T2, que c'est pas à 7 heures. Okay. Donc j'ai précisé.
Oui, Abbas Saga. Oui, j'ai dit, on parle de la sensibilisation et d'une méthode.
Oui.
Vous savez que c'est en plein discours qu'il a dit, ne soyez pas surpris. Il a dit, en tant qu'homme, un militaire, un gendarme, ne soyez pas surpris de voir les gens venir, une police, des gens venir vous demander les autorisations. Il pouvait dire ça autrement, que ça ne causerait pas des polémiques inutiles qu'on a en train de...
Vous imaginez, on dit qu'il y a même un maire. Il y a même un maire. Un maire qui a à peine à 25 mètres de chez lui. À 25 mètres de chez elle, une usine de Piyawata. Un maire, vous imaginez, vers Zangera, une usine de pierre, à 25 mètres du cimetière.
Quel est son nom? Il faut donner son nom.
Non. On dit le maire de Zangera.
Le maire de Zangera.
25 mètres, le ou la maire de Zangera.
25 mètres du cimetière.
C'est une dame, non?
Oui. C'est une dame, non?
Oui, il faut donner madame la maire. Je crois que Zangera, c'est à Gouenivé, combien? On va chercher, on va trouver.
25
mètres. Oui, Abbas?
À Gouenivé 7.
À Gouenivé 7, ok.
On va trouver le
nom. Oui, Abbas?
Oui, donc je disais que c'est la communication.
Oui.
Donc si la communication passe, il n'y aurait pas ces gens de problème. Parce que comme on est en train de le dire, des piwata au niveau de... On creuse pour enlever les piwata au niveau des cimetières. Ça, ce n'est pas normal. Entre-temps, je crois savoir qu'il y avait l'interdiction de fabrication de pivota par certaines sociétés qui ne sont pas agréées.
Oui.
Et qu'il y a même des descentes dans ces maisons de fabrication.
C'était
de...
au temps du ministre Nabagou.
Oui, Nabagou qui avait, justement, qui avait ça c'est une bonne initiative. Il faudrait que le ministre puisse revenir là-dessus.
Aujourd'hui, on a laissé tomber ça. Il faut aller. Comment le faire au niveau des écoles? On ferme certaines écoles. Comment le faire par rapport à certaines microfinances et autres? Ici, c'est la santé de notre santé qui est en jeu. Il faudrait qu'on recommence, que l'IAC reprenne cette situation au temps de Nabagou, où on a fermé certaines sociétés de Piwata qui ne sont même pas à règle, où les gens ont installé leur forage au niveau des cimetières, au niveau même des puisards. Donc il faudrait que...
Merci, l'eau, hein, l'eau de boisson, mais également l'eau avec la bonne saison pluvieuse, oui. En principe propice à l'agriculture. Deux journaux s'y intéressent. Le Messager, qui à la page 4 nous parle de la mécanisation agricole au Togo, 500 tracteurs pour équiper 400 zones agricoles aménagées, privilégiées d'ici 2025. La Manchette également, qui nous parle de la promotion de l'agro-industrie, le Togo qui mécanise son agriculture, les autorités togolaises qui viennent de doter les ZAP de bulldozers, de tracteurs et d'autres matériels agricoles. C'est pour la pratique de l'agriculture. Il s'agit donc d'appareils pour aider les agriculteurs à préparer les terres agricoles, à semer, à planter au moment opportun, entretenir les cultures et assurer les récoltes. Également, le transport des produits agricoles depuis les sites jusque vers les infrastructures de stockage, les unités de transformation ou les lieux de commercialisation. C'est Bourema Tchabouré. Là, c'est une action vraiment positive pour doper la production agricole. Mais vivement que cet engagement de l'État prenne effectivement forme, que les producteurs puissent disposer des matériels et des engins le plus rapidement possible.
Non, je crois que ça a déjà pris forme. Lorsque vous voyez la tournée du chef de l'État avec l'organisation
des forages,
il y a eu un certain nombre de matériels qui avaient été déjà mis en place à la disposition des agriculteurs. Et aujourd'hui, je peux, par rapport à l'article que nous avons eu à émettre, je crois qu'il y a 80 tracteurs qui sont déjà disponibles pour ces agriculteurs. C'est déjà un pas. Et maintenant, ça va couvrir, ce qui est intéressant, c'est que ça va couvrir toutes les 6 régions du pays d'ici 2025. Donc il faudrait mettre à la disposition de ces agriculteurs le matériel nécessaire. Vous avez vu partout dans le monde, aujourd'hui c'est la terre, hein? C'est la terre et l'avenir aujourd'hui c'est la terre. Donc il faudrait que les gouvernants puissent quand même dans leur droite ligne effectivement concrétiser ce qu'ils sont en train de dire. Il faut qu'ils concrétisent pour que les moyens soient nécessaires. Et ce sont des ZAP. Vous avez vu les ZAP aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ces ZAP vont bénéficier également de la disponibilité de ces tracteurs, de ce matériel, pour pouvoir permettre à nos agriculteurs d'évoluer. Et au finish, c'est que c'est la productivité qui augmente. Et ça, c'est pour le bien-être de nos populations.
Merci.
Et pourquoi pas exporter.
Des agriculteurs, passons aux logements sociaux, l'autre volet sur lequel l'État se fait attendre. Et le Mania Libéré écrit aujourd'hui, c'est l'article à votre manchette, pour un cadre de vie décent au Togo, bientôt 3000 logements sociaux, un nouveau site déjà identifié. On a vu le ministre d'État, Kodjo Adeje, visiter le site il y a quelques jours. Mais Abbas, l'article rappelle aussi bien à Adeje qu'à tout le gouvernement, que c'est un grand défi qu'ils se devront de relever.
Oui, effectivement, c'est un grand défi, puisque ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire de logements sociaux a commencé. On a vu les babissements que ça a eu depuis les ministres aussi qui se sont succédés. Aujourd'hui, il y a 2 ans de cela, il y a Shelter Afrique, qui a signé un contrat de partenariat avec le Togo pour la construction de 3000 logements. Donc ils étaient venus ici même pour faire l'étude de terrain en 2021, voir dans quelle mesure ça pourrait se construire. Et la dernière fois, le 3 octobre dernier, en marge du sommet et de l'Assemblée générale de Shelter Afrique, il y a eu une rencontre entre le ministre d'État Adeje et les responsables de Cheta, qui ont dit qu'ils maintiennent leur position de construire les 3 000 logements sociaux au Togo. Et c'est sur ça le ministre est revenu. Il est allé visiter les chantiers, c'est à Kpome, dans le Zion 1, dans la commune Zion 1, pour voir dans quelle mesure on va démarrer les travaux, parce qu'il faudrait les infrastructures routières qui peuvent être acheminées vers là, la disponibilité du terrain, puisqu'il y a, on a parlé de 1117 hectares qui sont réservés pour la construction de 20 000 logements sociaux. Et ces logements sociaux seront des logements pilotes pour l'ensemble du territoire national. Puisque les 20 000 logements sociaux, c'est prévu à être construits sur 5 ans, de 2020 à 2025.
Et nous sommes déjà,
à la fin 2023.
Il y a deux ans, il y a trois mois.
On a vu qu'il y a certains logements.
Deux ans, deux mois et demi. Okay. Non, deux, pas et demi, même deux mois, quelques jours.
On a vu la construction de certains logements sociaux qui piétinaient, par exemple, Mokopo, au niveau de lycée technique. Il y a West City,
il y a Lankouville,
il y a aussi les cités Renaissance qui sont là, qui sont en train d'être construites. Donc aujourd'hui, on attend impatiemment, et le gouvernement doit relever ce défi, de mettre à l'aise et de permettre aux populations de vivre dans la décence, comme ils l'ont dit, selon le programme du gouvernement 2020-2025, il faudrait que les populations...
Oui, c'est bien, sauf parce que la dernière fois, le ministre Adeje a visité le site de Kpome. Or, ce site fait problème. Les populations de Kpome sont toujours vent debout. Elles se plaignent que déjà une bonne partie de leur terre a été prise pour l'exploitation des phosphates. Maintenant, ce qui leur reste, c'est tout ce que l'État leur prend. Ils n'ont plus de terrain pour construire. Ils n'ont plus de terrain pour les cimetières. Alors, c'est des gens qui font des démarches. Ils ont écrit à l'Assemblée nationale, ils ont écrit au chef du gouvernement depuis Klassou jusqu'à Mme Dogbé, ils ont écrit même, envoyé à la présidente de la République, écrit un peu partout, personne ne les écoute. Alors Abbas, est-ce que l'État va construire ses logements sociaux sur la terre des gens qui se plaignent?
C'est là que j'ai parlé d'un défi pour l'État. L'État a un grand défi à relever, parce que par rapport à ses plaintes, l'État doit recevoir, comprendre, écouter ces messieurs-là et les dédommager.
Ces messieurs et dames
et les dédommager, parce qu'on ne peut pas exproprier le terrain de quelqu'un sans rien lui donner. Il faut aussi les sensibiliser et leur expliquer ce qu'il y a, les raisons pour lesquelles l'État a appris ça. Parce qu'il y a certaines choses déjà qui ont été prises pour l'exploitation des phosphates. Ils sont en train de dire qu'ils n'ont rien reçu. Maintenant, c'est les 1117 hectares qui sont en train d'être pris pour la construction des logements sociaux. Ils vont se retrouver où? Les dédommages vont se passer comment? Donc il faudrait qu'on les reçoive et qu'on les écoute et qu'on leur dise que voilà ce que nous vous réservons. Et la vérité va se taire. Sinon, si on continue dans cette histoire, c'est que les 3000 logements sociaux que cette Afrique veut construire, ça va tomber à l'eau, puisqu'ils disent que par rapport à ça, il leur faut de certaines facilités. La disponibilité du terrain et l'imposition fiscale, qu'on leur diminue ça avant qu'ils n'arrivent à exonorer et à exécuter les tâches-là.
En somme, les logements sociaux, c'est bien, mais on ne va pas construire des logements sociaux et créer des sans-abri, pour ne pas dire des Palestiniens modernes dans notre pays. Ça, c'est important pour la cohésion sociale.
Écoutez, c'est important. Et je crois que dans ce projet, il y a tellement de défis. D'abord, il faut dire clairement que nous sommes en retard sur le projet, parce qu'on parle de 5 ans, il reste 2 ans. Donc nous sommes tellement en retard. Ça veut dire qu'en amont, il y a cette récrimination des populations et tout ça. Mais il y a un pas important de l'histoire que vient donc de narrer notre confrère. Il dit que les populations disent qu'ils ne peuvent même plus trouver de la terre pour leur inhumation, c'est pour avoir un cimetière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire.
Ils ne peuvent plus agrandir leur village.
Même plus de place pour donc, le soit le gouvernement revoit donc le projet à la baisse, c'est-à-dire en termes donc de densité, Si c'est, tu parles donc de 17 000 hectares ou
1117 000.
Mais s'il y a ce problème là qui se pose, vaut mieux donc revoir donc le projet, c'est-à-dire en termes donc de densité d'hectares à la baisse. Comme ça, on discute avec la population et il faudrait quand même qu'ils soient également d'accord avant qu'on ne puisse exécuter le projet. Parce que on peut pas exproprier. Il est vrai, par les années passées, on a exproprié les gens. Il y a l'université de Lomé, il y a tellement donc de choses. Les gens se plaignent jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas été dédommagés. Il faudrait pas qu'on continue dans ce sens-là. C'est important de
ouais, écouter la population. Non, justement, moi je vois un problème là-bas. À moins que je ne comprends pas bien ce qui se passe. Est-ce que avant l'exécution ou bien avant de mettre ce projet-là sur pied, est-ce qu'il ne faille pas discuter avec les populations?
En amont.
En amont. Il ne faudrait pas, parce que vous avez parlé de la visite du ministre d'État à Dédié.
Oui.
Ah, s'il a visité, ça veut dire que tout est déjà fait. Maintenant, les populations se plaignent. Moi, je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas commencer un projet sans avoir vu les riverains discuter avec eux. Vous avez dit quelque chose au début, un adage. Aujourd'hui, nous sommes dans une tension. Ça dit que si je vois le problème, c'est une tension. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait discuter. Il faudrait discuter. Et en réalité, c'est ce qui devait être fait avant de pouvoir commencer par le faire. Alors, si à l'aventure que l'État a constaté qu'il y a un projet comme ça de grande envergure qui est important pour la population, mais il faut discuter. Aujourd'hui, les populations se plaignent. C'est vrai, vous avez dit quelque chose de très important. Il ne faudrait pas qu'on crée une Palestine bis dans notre pays. Ce n'est pas bien. Je pense que les autorités nous écoutent. Et aujourd'hui, peut-être ce sont les cris de ces populations, de ces délaissés que nous sommes en train de transmettre, que l'État puisse quand même discuter, écouter.
Merci à vous, Abel, et savoir ce qu'il y a de faire. Sylvestre Kokou avec Abel aussi qui est avec nous. Nous terminons avec la gouvernance économique et démocratique avec les sujets phares, hein, à savoir le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui est invité d'honneur au sommet des leaders mondiaux sur l'investissement, c'est Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Le libéral aussi nous en parle, Faure Gnassingbé, qui depuis cette tribune a partagé sa vision avec ses pairs et le monde des affaires. Il a parlé des réformes ici au Togo, la vision d'un État stratège qui permettra de relever les défis de développement durable et la consolidation de la résilience des populations. C'est à suivre. Mais à côté de ça, il y a également Lomé, qui est la capitale de la microfinance africaine depuis lundi, durant toute la semaine. Et pour la microfinance que nous rappelle le libéral, le messager aussi nous rappelle que le Togo est une référence en Afrique pour ce qui est des microfinances. Tous ceux qui sont dans ce studio ont des comptes dans au moins une microfinance, même si l'argent n'est pas beaucoup.
C'est quand même si elle existe d'ailleurs.
Alors, autre article sur la gouvernance, c'est cet article important de la Dépêche qui dit que l'administration publique se meurt. L'article évoque qu'il n'y a pas de consommables dans les bureaux. Il n'y a plus de carburant pour les déplacements des agents de l'État. L'administration publique générale vit au ralenti et les fonctionnaires publics croisent les bras dans leur bureau dans l'indifférence totale, alors que le budget 2023 a été régulièrement voté par l'Assemblée nationale et la loi de finances rectificative a été votée. On a parlé d'un accroissement de 0,9%. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que les agents dans les bureaux n'aient pas les moyens de travailler? Et par indiscrétion, on apprend également que même des ministères ne peuvent plus faire certains investissements. Certains crédits ont été coupés, voire même ralentis. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il faudra peut-être qu'on l'explique. Autre article d'un journal, c'est Le Correcteur du lundi 16 octobre qui rappelait que les préfectures de Golfe et d'Aguenivé n'ont plus de préfet. Oui. L'ambassade du Togo en France n'a plus d'ambassadeur, de même que le district autonome du Grand Lomé se retrouve sans tête depuis de nombreuses années.
Même ni queue.
Alors, l'article parle des anomalies innommables de la République. Et pour coller un peu, faire la jonction entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, laquelle l'Assemblée nationale a constitué une commission en date du 6 octobre dernier pour enquêter sur le rapport d'audit de la Cour des comptes. sur la gestion de la, des fonds de la COVID 2020. Et la manchette, Sylvestre Kokou, ton journal publie aujourd'hui cet article intitulé « Enquête fonds COVID ». Voici les 27 députés, hein, les 27 avec leurs photos, leurs noms, leurs circonscriptions électorales. Et l'article dit « L'histoire vous regarde ». Sylvestre Kokou.
Oui, ça c'est pas de tout commentaire. Vous savez, il y a une version de la Cine qui dit souvent que « Verba volent, scripta manent ». Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Vous n'êtes pas sans savoir que cette affaire donc de rapport de la Cour des comptes a défrayé la chronique. Pour certains Togolais, il y aurait eu malversation. Pour d'autres, ils se défendent. Il y a certains qui disent que non, c'est vrai qu'il y a quelques insuffisances qui ne sont pas de nature
à entacher
la crédibilité donc du rapport. Mais à la fin, patatras, c'est le l'Assemblée nationale, hein, la même où certains députés ont même applaudi. Une délégation ministérielle qui est passée donc le 21 février, pour expliquer tout ce qui concerne ce rapport. Patatras, on revient, on dit, on crée une commission pour enquêter sur ce qu'on venait même d'applaudir. C'est bon, c'est une très bonne chose. Maintenant, les 27, il faudrait quand même qu'on les connaisse. Donc, nous avons...
Et tu nous l'as fait découvrir.
Oui, il faudrait qu'on connaisse les 27. Parce que moi-même, c'est en cherchant parfois que je découvre qu'il y a certains députés, d'ailleurs, ils vont finir bientôt, mais... Quand je les vois dans la rue, je ne peux même pas savoir si ils ont une fois fait l'émission, si jamais ils ne revenaient pas.
Donc, tu as fait un travail de journaliste.
Voilà.
Bon.
Donc, maintenant, les Togolais les connaissent, les 27. Ils sont donc censés nous dire réellement ce qui s'est passé en ce qui concerne la gestion des fonds COVID. Maintenant, l'histoire les regarde. S'ils font bien, l'histoire les regarde. S'ils font mal, l'histoire les regarde. Donc, monsieur... À vous de jouer.
Merci. Alors, le 27, d'aucuns se demandent, a-t-on besoin d'une commission de 27 députés
27.
Pour enquêter sur un rapport de la Cour des comptes? Bon, mais sur le 27, l'article relève que 20 viennent du Parti Uni.
Oui, Uni,
c'est 2 de l'UFC, 1 du Parti Net, 1 du Parti Bâti, 1 du Parti PDP et 1 député indépendant. Ils ont 46 jours. Depuis le 6 avril, pour produire leur rapport. Cela va nous amener vers la fin du mois de novembre. Mmh. Alors, quand ils auront produit leur rapport, quel temps l'Assemblée a d'étudier ce rapport-là, en plus du projet de budget qui est déjà là et des autres textes? Et quand on se rappelle que cette Assemblée arrive en fin de mandat, fin décembre. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? Et puis d'autres également... Une réflexion que quelqu'un nous a faite dans la commission, il y a M. Acholi Akleso. Il est secrétaire exécutif du Parti Uni. Il est également le président du groupe parlementaire Uni l'Assemblée. Alors, quelqu'un avait son poids là. Est-ce qu'il ne risque pas d'influencer les 20 députés unis dans cette commission? Autant de questions que nous nous posons comme Togolais profanes.
Non, pour le moment, ce sont des suppositions. On attend de voir. Moi, je pense qu'il faudrait attendre de voir ce qui va sortir le résultat qui va sortir de cette enquête. C'est très important. Si les parlementaires ont eu l'ingénieuse idée de pouvoir mettre une commission en place, parce que il faut se dire qu'ils sont conscients qu'il y a eu quelque chose qui a cloché. Ils sont conscients que les gens ont eu à critiquer, donc quelque chose a cloché. Ça, c'est déjà un pas. Maintenant, est-ce que ça va être le résultat?
Non, ils sont devenus conscients.
Non.
La
parole à moi. Ouais. Donc, ça, c'est déjà un pas qu'il faudrait s'en féliciter. Maintenant, attendons de voir quel va être le résultat. Il va être différent de celui de la Cour des comptes, point d'interrogation. Mm-hmm. Et en ce moment, on avisera, parce que nous sommes là en tant qu'hommes de médias, on va les harceler à leur dernier retranchement. Ils doivent nous dire la vérité.
Ils sont tenus de dire la vérité.
Sauf qu'il y a un problème de calendrier.
Oui.
Les 45 jours, s'ils travaillent effectivement du 6 octobre, ça va aller vers la fin novembre. Alors, le rapport qu'ils auront produit, cette commission-là, quel temps matériel les autres députés ont pour prendre ce document, l'analyser, l'étudier, quand on sait que l'agenda est déjà fourni avec le projet de budget 2023-2024 et tous les autres textes que le gouvernement a déjà produits et qui sont sur la table de l'Assemblée nationale.
Ça, parce que peut-être qu'ils maîtrisent leur agenda en mettant cette commission en place de 45 jours. Cette commission qui est mise en place, ce n'est pas peut-être de la volonté de l'Assemblée nationale. Il y a eu des partenaires qui ont mis de l'argent dedans. Il y a la BAD qui a mis l'argent
dedans. Le fonds Covid.
Le fonds Covid, c'est pour le fonds Covid.
Donc il y a des pressions.
Donc, il y a des pressions qui sont là. Vous devez nous faire le rapport par une enquête parlementaire. Et si l'Assemblée nationale est dedans actuellement, est revenue, vous faites le vote face. C'est pour cela que la semaine dernière, nous avons titré l'Assemblée nationale, les 27 sont face à l'histoire. Donc, ils doivent nous donner les résultats réels. Ils doivent donner à la population togolaise, ils doivent donner le rapport normal et sérieux à ceux-là qui ont donné de l'argent, les partenaires en développement. Ils doivent aussi dire la vérité au peuple togolais qui a cotisé, parce qu'il y a un appel de fonds qui a été fait par le chef de l'État pour que on mène la guerre contre la COVID-19. Mm-hmm. Donc, ils auront le temps.
Non seulement les Togolais aussi ont cotisé.
Et oui, c'est, ce que j'ai dit, appel de fonds.
Et ça défilait, ceux qui ont donné de l'argent.
C'est ça que j'ai dit, appel de fonds.
Que tout soit clair.
Tout soit clair.
Merci, mesdames et messieurs les députés de la commission. L'histoire vous regarde et vous n'avez pas beaucoup de temps. On verra votre rapport d'ici les 45 jours. Et surtout, la grosse question, fini décembre là. Est-ce que l'Assemblée sera encore en place ou bien qu'est-ce qu'il en sera? Nous faisons pas de
discussion. Je crois que les thèses sont claires là-dessus.
Oui,
hein. Les thèses sont claires. Ils vont continuer jusqu'à la mise en place.
Oui, il y a une nouvelle constitution qui dit ça.
C'est l'article 52, alinéa 11.
Dans la foulée, ils peuvent quand même nous prendre un rapport.
Oui, mais en même temps, Mouraïma, on peut comprendre qu'on ne fasse pas les élections en période de crise.
Oui.
Or, il est admis que le Togo n'est plus en crise. Alors, qu'est-ce qui explique que nous ne puissions pas faire les élections, au moins législatives, cette année, alors que la CENI avait lancé le processus et que personne ne dit plus rien?
C'est un autre débat.
Et ni la CENI, ni le gouvernement. Mais comme vous avez dit,
quand je disais que le Togo est en crise,
il
devait accepter à l'époque.
Mais souffrez qu'on suspende nos échanges ici, d'autant plus que les auditeurs attendent. 93.5 Canal FM. Le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, pour vous écouter dans vos questions, dans vos commentaires. Premier auditeur en ligne, bonjour. Allô?
Oui, c'est moi, Garo Tchad.
Oui, monsieur Garo.
Oui.
Nous vous écoutons.
Oui. Vous savez, vous avez parlé de TDE là.
Oui.
Parce qu'on fait, dit que bon, rien ne sort. Il y a quelque chose qui sort. Quand vous tournez le robinet, le matin, il a un ventilo dans le tuyau. Ça fait prrrr. Et le contexte tourne en notre défaveur.
Monsieur Garo.
Vous avez remarqué. Bon, peut-être aussi les députés ont décidé de mettre quelqu'un en prison pour marquer leur passage. On va les applaudir. Bon, pour le poste d'ambassadeur en France, je l'ai toujours réclamé sur vos antennes que si on me nomme ambassadeur là-bas, avec le personnel notamment, on va démonter la tour Eiffel, on va rentrer sur ce Togo parce que c'est pour nous la tour Eiffel. Merci, bonne journée.
Merci, M. Garo, qui parle en parabole ou bien en énigme, c'est pour la bonne humeur. Le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Oui, c'est monsieur.
Moi, c'est Komla.
Komla, oui.
J'appelle d'Atikoumé.
Atikoumé.
Oui, oui.
Eh bien, nous écoutons.
Vous avez parlé des logements sociaux.
Oui.
Peut-être que je n'ai pas la bonne compréhension de ce que vous appelez logement sociaux, parce que vous avez cité les cas de Mokoko, de Lankouli et tout ça. Mais là-bas, ce n'est pas des logements sociaux. Vous arrivez, vous voyez ce qui se passe là-bas. Bon, en tout cas, j'ai juste voulu faire cette observation. C'est tout.
Mais on ne fait que reprendre les termes du gouvernement. Allô, l'ami Komla?
Merci beaucoup.
Oui. Je vous en prie, l'ami Komla. Nous n'avons fait que reprendre les termes du gouvernement. L'auditeur suivant, le troisième, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sanz. C'est Nestor depuis le quartier administratif.
Monsieur?
Nestor.
Nestor.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Oui, l'eau, c'est la vie.
Mm-hmm.
Le gouvernement nous a privé d'eau depuis 60 ans, il nous gouverne. Et maintenant, on nous dit que les forages, patatra. On ne refuse pas. Ils n'ont qu'à faire l'essentiel. Il n'y a pas l'eau. On va mourir de l'eau. Vaut mieux de boire ce qui est sale. Donc, ils n'ont qu'à faire essentiel d'abord. Je vous en prie.
C'est nous qui vous prions. En effet, on dit quelque chose. Hein. Beaucoup n'ont pas d'eau. Mieux vaut mourir après avoir mangé quelque chose de mauvais que de mourir de faim. Mais le gouvernement, en bon père de famille, sera avisé, sûrement. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur.
À Clesson depuis Mission Tovey.
Ah, à Clesson oui, depuis Mission Tovey.
Oui, entre-temps, j'avais appelé que la tête de Nakar Oumain nous a réussi en l'eau.
Oui.
Maintenant, voilà les résultats. Moi, je suis là-bas depuis 2014 que c'était dans Zio, on allait pour chercher l'eau à boire. Mm-hmm. Maintenant, il y a quelques personnes qui se mettent au habitat qui ont pu faire le forage. Maintenant, c'est bien, on se ravitue de ça. L'eau, c'est la vie. De Atakpamé, là, jusqu'à Grand Nord, vers le Dapaon, là, qui connaît forage là-bas? Ce sont les puits seulement là-bas. Quel sera leur sort actuellement? Leur profondeur de puits et qu'on sort là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va dire de ce côté?
Mm-hmm.
C'est un cas aussi. Donc, l'eau, c'est la vie. Donc, on doit nous enrichir l'eau pour boire nous-mêmes, mais pas dire qu'on va envoyer les policiers de l'eau pour. Après tout, on ne comprend plus rien.
Mm-hmm.
Ok, ça m'a pas pour le moment.
Mon général, vous avez le devoir de beaucoup vous expliquer, sensibiliser, expliquer à vos compatriotes. Sûrement qu'ils comprendront. Auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, M. Sass.
Oui.
C'est Boubacar.
Monsieur Boubacar.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Merci. C'est pour parler de l'eau.
Mm-hmm.
Depuis Covid, moi j'ai toujours demandé de l'eau au niveau de Kégué Zoubédi là-bas. Je vous ai même félicité pour ce que vous avez fait pour le courant. Mais la TBI ne fait rien pour nous là. Moi, personnellement, tout pas, j'ai fait un forage.
Mm-hmm.
Et le forage, je l'ai fait gratuitement. Tout le quartier le prend. C'est vrai qu'on n'arrive pas à boire avec, mais ça nous sert quand même de laver et de faire la cuisine avec.
Mm-hmm.
Mais là, aujourd'hui, si on débarque, on me demande une autorisation, je ne l'ai pas. C'est le ministre, je le respecte beaucoup. Un ministre qu'on respecte beaucoup. Mais qu'il arrive à demander au TBE de nous faire d'abord les installations. Et après, le reste va suivre. On est d'accord, c'est une loi. On doit la respecter. Mais malheureusement, on n'a rien. On dépend de ce qu'on veut. On va se contenter de ce qu'on a.
Merci, c'est ça. Merci beaucoup, l'ami Aboubacar. Je rappelle quand même que nous avons parlé de beaucoup d'autres sujets autres que l'eau. Sûrement que le suivant va nous y amener. Bonjour, l'ami.
Bonjour.
Oui.
C'est Niamavo.
Monsieur Niamavo, nous écoutons.
Excusez-moi, j'ai la toux là.
Mm-hmm. Ah, j'espère que ce n'est pas la Covid.
Non, non, non.
Ok.
Monsieur, les fonds sont déjà liquidés, il n'y a pas plus de Covid.
Ok.
C'est pour la TDE.
Oui.
Je ne sais pas si vous remarquez, on cherchait à donner de l'eau potable au Togolais, mais à peine il reste un sous ma jarre là, il faut renverser, refuser parce que je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la lie ou bien quoi. Il y a des dépôts. Hein? On nous dit que c'est de l'eau potable. Et nous buvons de l'eau de la TDE à Lomé parce qu'avec les forages, c'est salé. Et si on veut arrêter, bloquer ces histoires de forage, ce sont les étrangers qui nous donnent les eaux de forage pour les ménages et la lessive et autres. Pour le lot de boissons, c'est l'eau de la TDE ou bien c'est parce qu'on ne paie pas beaucoup là-bas pour en face de l'argent. C'est pourquoi ils veulent. Si les étrangers ferment leur forage, où est-ce qu'on va chercher les eaux?
Quels étrangers? Vous parlez de quels étrangers?
Oh, généralement, là où nous sommes, là, c'est les étrangers, les Nigériens.
Ah, dans votre quartier là-bas?
Ouais, c'est les Nigériens autres, là, qui ont fait beaucoup de forages. Ah, qui nous aident là-bas.
C'est quel quartier, s'il vous plaît?
C'est à Dewi.
À Dewi?
Oui, à Dewi.
À Dewi, donc ce sont les étrangers qui viennent faire des forages à Dewi pour nous alimenter.
Pour nous alimenter, c'est gratuit.
Ah, notre fierté devrait prendre un certain coup, hein, devant certaines affirmations.
L'État même, dans les villages, les gens boivent. On a bu de l'eau boueuse, on est en vie aujourd'hui. Hein? Donc, comme quelqu'un le disait, il vaut mieux boire sauvegarder sa vie que d'attendre l'État pour nous fournir de l'eau. Merci.
Je vous en prie, l'ami Niamavo. Bonne guérison pour votre rhume, hein, votre toux. Le suivant, bonjour. Allô?
Bonjour.
Bonjour
sur le plateau.
Papa Sibidi.
Je voudrais intervenir pour les députés. Bon, la cour des comptes a donné son point de vue. Les Togolais ont réagi. Je pense que le gouvernement il a réagi contre mon cours, mais les députés ont tout intérêt à tout faire pour que il soit du côté des Togolais. Si c'est si c'est vrai, ils n'ont qu'à dire que c'est vrai.
Papa Sibiti, vous n'allez pas influencer le travail des députés.
Hein?
Vous n'allez pas influencer les députés dans leur travail.
Non, comment les intimider? Jamais.
Mm-hmm. Allô? La communication.
Allô?
Oui.
Je ne vais pas les. Mais ils sont élus par le peuple.
Oui.
Ils n'ont qu'à dire ce que le peuple, si c'est vrai, ils n'ont qu'à confirmer. Si c'est faux, ils n'ont qu'à confirmer. On va voir s'ils auront des problèmes avec le gouvernement. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Papa Sibiti. Le tout dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, bonjour. Dieu merci que je sois le dernier.
Benoît Dagoué.
Oui, grand frère, bonsoir.
Mm-hmm.
Bonsoir le plateau.
Bonjour à vous.
Ok, moi j'aimerais pour la commission pour les enquêtes là.
Oui.
Non, normalement, si c'est dans un pays normal, l'Assemblée devait démissionner. On devait dissoudre l'Assemblée nationale.
Et pourquoi?
Je donne l'exemple, ce qui se passe en Madagascar là. Vous avez félicité la chose.
Oui.
Vous n'avez pas fait d'enquête avant de féliciter les gens. Maintenant, vous mettez une enquête pour dire qu'ils vont aller chercher quoi? Le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent être dissoutes. Merci.
Je vous en prie. Madagascar, c'est le président du Sénat qui a été démis par les siens parce que pour des problèmes internes politique à ce pays également, difficile de se retrouver. Comme dirait l'autre, les problèmes en Afrique, dans les différents pays africains, si on vous explique que vous avez compris, c'est que soit vous n'avez rien compris, ou bien on vous a mal expliqué.
Mal expliqué, c'est sûr.
Eh bien, merci les amis. Encore une fois, la plupart des auditeurs se sont intéressés à l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais il y a quand même deux ou trois qui ont quand même parlé de la commission d'enquête. Un tour de table pour vos conclusions, Bourema.
Non, je crois que tout a été dit et puis moi j'espère que les gouvernants nous écoutent. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre à la disposition des structures qui doivent nous aider, qui doivent permettre à la population d'avoir le besoin nécessaire. Il faut mettre les moyens. On comprend que l'État ne peut pas tout faire. Il faut quand même qu'on soit aussi réaliste, parce que la crise actuelle, ça concerne tout le monde entier, mais quand même que le minimum soit fait. Et en cela, je voudrais revenir sur une situation. SAS, je ne sais pas si vous avez visité le quartier Vakposito ces derniers temps, entre Entreprises de l'Union et, comment l'appelle-t-on, Assigombe. Mais c'est la catastrophe. Messieurs les maires, je ne sais pas c'est quel arrondissement, quel commune, messieurs les maires, madame la ministre des TP, s'il vous plaît, faites un tour là-bas et vous allez voir ce qui se passe. C'est honteux, sincèrement. Ce n'est pas bien. Vous allez voir comment la population vient avec leur engin. Comment vous faites des deux tours pour trouver une petite passerelle pour arriver chez soi. Ce n'est pas bien. Et les maires ne disent rien. On ne voit aucun signe. Madame la ministre des TP ne dit rien, mais pourtant on a vu, il a eu à visiter d'autres lieux, quand même. Et c'est un cri de cœur, sincèrement.
C'est en ville ici.
C'est en ville, sincèrement. C'est un cri de cœur, ce n'est pas bien.
Et bien, rappelez un peu l'itinéraire à madame la ministre.
C'est-à-dire que Vakposito,
oui,
à Sigomé, vous arrivez au niveau de l'entreprise de l'Union,
oui,
c'est-à-dire vous descendez le goudron,
fin goudron.
Vous prenez, mais attends, mes amis, soyons sérieux. Quel étranger va venir dans notre pays, va aller circuler là-bas et voir une telle situation, madame la ministre? Ce n'est pas quand même bien.
Donc, pour dire que vous êtes prêt à servir de guide à madame la
ministre. Je suis là, je vais servir de guide.
Visite,
et je ne serai pas seul. Là où je suis en train de parler, les populations de là m'écoutent. Ce n'est pas bien.
Merci. Et c'est un carton quand même.
Non, le carton est rouge pour eux, pour madame la ministre des TP.
Non, c'est pas la guerre.
Non, madame la ministre des TP et tous ces maires-là qui entourent cette zone. Vous avez un carton rouge.
Ils sont convaincus.
Vif.
Merci. Sylvestre Kokoubeni.
Écoutez, non, moi je voulais en fait reprendre un auditeur qui disait que à défaut donc de ce qu'on veut, on se contente donc de ce qu'on a. Donc avec cette situation de forage, allons doucement. Comme on le dit souvent, allons mollo. Il ne faudrait pas que on puisse s'engager dans une situation où après finalement on serait encore dans une crise de l'eau. Donc, respectons donc les, prenons des dispositions pour que cette situation ne puisse pas devenir encore un autre problème. Maintenant, quand j'ai écouté un Togolais qui me dit à DU ici, à DU juste à côté, et que c'est des étrangers.
Le nom administratif, c'est Tocoin
du Mansissé.
C'est ce que nous appelons communément.
Oui, oui, c'est Tocoin du Mansissé. Puisqu'il y avait un chef à l'époque là, qui avait réclamé ça, que son quartier, c'est Tocoin du Mansissé,
et
non
Adéwi. Et le chef là, c'était le, c'est le père du contre-amiral Adéguion Fogan.
Voilà.
Qui était chef de.
Voilà, il avait réclamé.
Qui insistait.
Que son quartier, c'est Tocoin du Mansissé, non Adéwi. Donc ici, à Adéwi, qui n'est pas trop loin aussi donc, de. D'une base donc de la TDE et que c'est des étrangers qui viennent faire des forages pour des populations et c'est gratuit. Mais parfois, quand on a ce genre donc de révélations, ça touche un peu à
notre fierté nationale.
C'est pas bien. Faudrait que, véritablement que. Mais le hic, c'est que je vais peut-être terminer là. Le hic, c'est que c'est les mêmes qui sont là depuis des années, quoi. Et c'est sous eux qu'on a toujours cette situation.
Là, tu parles comme, comme Damézi.
Oui, c'est les, il faut alterner. Puisque Damézi n'a pas appelé aujourd'hui. Okay. Il faut alterner.
Quand vous des élections. Oui,
quand vous alternez, vous verrez que ce genre de choses, d'autres viendront donc. Et là, on irait donc en crescendo. Alterner, quoi.
Si la population ne veut pas qu'on alterne, tu veux qu'on.
C'est un carton vif, je reprends, un carton vif rouge pour eux. Ils sont là depuis des années, mais ça ne marche pas.
Alors, donc, je constate que il y a le masculin de ici dans ce
sujet. Oui, il faut alterner.
Merci, Abassi Saka.
Oui, je vais revenir par rapport au problème du logement, là,
oui.
Puisque les gens en ont parlé.
Oui, oui. Un auditeur s'est demandé si c'est des logements sociaux, vu le coût qui n'est pas à la portée du Togolais lambda.
Oui, c'est pour ça que je voulais revenir sur ça, parce que le coût, on parle de logements sociaux qui devaient permettre aux populations vulnérables d'avoir un logement accessible. Et lorsque vous allez à Mokoukoua là-bas, je ne pense pas que les pauvres ou bien les populations vulnérables.
Mokoukoua, c'est ce qui se fait dans
l'ancien de ces techniques là-bas. Je ne sais pas si les pauvres peuvent avoir accès à ces sites-là.
C'est quoi le coût moyen de ces logements là-bas?
Je vais en chercher. Okay. Je n'ai pas encore trouvé, mais c'est que ça coûte, ça dépasse le niveau de.
J'ai entendu quelque chose comme 20 millions de francs.
20 millions, oui. Puisque...
C'est pas logement social.
Hein. Quand on dit logement, ce ne sont pas de 20 millions, ouais, c'est pas ça. Logement social.
Aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie cette situation par rapport à la vulnérabilité des populations. Et donc, et sur cette question, je pense que le ministère là ne communique pas assez.
Le ministère de.
L'urbanisme.
Oui.
Ne communique pas assez
avec le nouveau ministre d'État DJ.
Oui, ça il faut communiquer, dire aux gens ce qui se passe. Parce que je viens d'apprendre qu'il y a certains propriétaires terriens qui ont été payés. Et ceux qui n'ont pas été payés, c'est eux qui ont des problèmes de litiges fonciers. Et le problème se trouve, l'affaire se trouve au niveau du tribunal. Il faudrait que la justice se prononce d'abord. Et celui qui gagnera le procès, c'est à lui qu'on va dédommager. Donc cette situation, il faudrait chercher à communiquer. Et que aujourd'hui les études sont en train d'être faites toujours là-bas pour voir si les bâtiments même qu'on va poser vont tenir. Les études de sol et autres là, sont en train d'être faites.
Pour voir. Alors, un auditeur nous dit que les villas de Mokoukoua seraient autour de 35 millions.
Uh-huh.
Alors vous me direz si c'est 35 millions, si c'est social ou
c'est
bien.
Pas social,
non, non, laissons les auditeurs.
Bon carton.
Ah oui, ton carton en base.
C'est bon. Contrairement à mes deux confrères, moi je donne un carton vert.
Oui, à qui?
À l'ANPC.
Oui.
Qui se débat dans ces genres d'inondation parce que. Il y avait le. Comment on dit ça? Le Nangweto. Nangweto avait dépassé, débordé par rapport aux pluies dernières.
Oui.
Et la NPC allait faire beaucoup de travail là-bas.
Oui.
Pour au moins à diminuer l'eau et éviter l'inondation comme ce qui s'est passé au Ghana là.
Oui.
Donc ils ont rassuré la population qu'il n'y aura plus de problème. Ils n'ont qu'à continuer.
Merci. Et c'est vrai que nous n'avons pas enregistré de décès. Depuis, la NPC sait ce qu'il faut évacuer, elle le fait, aussi bien dans les quartiers de Lomé Est qu'ailleurs. C'est une bonne chose. On pourra toujours critiquer quand on est en vie, n'est-ce pas? Donc ce carton, vert à la NPC. Je crois que nous tous, nous nous y...
NPC,
Abel aussi.
Non, pas de commentaire, pas de carton.
Oui, pas de commentaire, pas de carton. Ouais, voilà. Mais rendez-vous pris la semaine prochaine.
Oui.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Rendez-vous renouvelé pour demain jeudi à 11h si Dieu le veut. Et nous savons déjà que Dieu le voudra.